larme. Pourquoi, mon Dieu, l'arbre ne voulait-il pas lui répondre, lui dire de quel ancêtre il tenait pour qu'il inscrivît son cas sur sa feuille à lui, à côté des autres? Et s'il devait devenir fou, pourquoi l'arbre ne le lui disait-il pas nettement, ce qui l'aurait calmé, car il croyait ne souffrir que de l'incertitude? Mais ses larmes lui brouillaient la vue, et il regardait toujours, il s'anéantissait dans ce besoin de savoir où sa raison finissait par chanceler. Brusquement, Clotilde dut se cacher en le voyant se diriger vers l'armoire, qu'il ouvrit à double battant. Il empoigna les dossiers, les lança sur la table, les feuilleta avec fièvre. C'était la scène de la terrible nuit d'orage qui recommençait. Le galop de cauchemar, le défilé de tous ces fantômes, évoqués et surgissant de l'amas des paperasses. Au passage, il jetait à chacun d'eux une question, une prière ardente, exigeant l'origine de son mal, espérant un mot, un murmure qui lui donnerait une certitude. D'abord, il n'avait eu qu'un balbutiement indistinct. Puis, des paroles s'étaient formulées, des lambeaux de phrases. « Est-ce toi? Est-ce toi? Est-ce toi? Oh, vieille mère, notre mère à tous, est-ce toi qui dois me donner ta folie? Est-ce toi l'oncle alcoolique, le vieux bandit d'oncle, dont je vais payer l'ivrognerie invétérée? Est-ce toi le neveu ataxique, ou toi le neveu mystique? Ou toi encore la nièce idiote qui m'a porté la vérité en me montrant une déforme de la lésion dont je souffre? Est-ce toi plutôt le petit cousin qui s'est pendu? Ou toi le petit cousin qui a tué? Ou toi la petite cousine qui est morte de pourriture, dont les fins tragiques m'annoncent la mienne, la déchéance au fond d'un cabanon, l'abominable décomposition de l'être? » Et le galop continuait. Ils se dressaient tous, ils passaient tous d'un train de tempête. Les dossiers s'animaient, s'incarnaient, se bousculaient en un piétinement d'humanité souffrante. Ah, qui me dira, qui me dira, qui me dira? Est-ce celui qui est mort fou? Et celle-ci qui a été emportée par la phtisie? Celui-ci que la paralysie a étouffée? Celle-ci que sa misère physiologique a tuée toute jeune? Chez lequel est le poison dont je vais mourir? Quel est-il? Hystérie, alcoolisme, tuberculose, scrofule? Et que va-t-il faire de moi? Un épileptique? Un ataxique ou un fou? Un fou? Qui est-ce qui a dit un fou? Ils le disent tous. Un fou, un fou, un fou! Des sanglots étranglèrent Pascal. Il laissa tomber sa tête défaillante au milieu des dossiers. Il pleura sans fin, secoué de frissons. Et Clotilde, prise d'une sorte de terreur religieuse, en sentant passer la fatalité qui régit les races, s'en alla doucement, retenant son souffle. Car elle comprenait bien qu'il aurait eu une grande honte s'il avait pu la soupçonner là. De longs accablements suivirent. Janvier fut très froid. Mais le ciel restait d'une pureté admirable. Un éternel soleil luisait dans le bleu limpide. Et, à la souleillade, les fenêtres de la salle, tournées au midi, formaient serre, entretenaient là une douceur de température délicieuse. On ne faisait pas même de feu. Le soleil ne quittait pas la pièce. Une nappe d'or pâle, où des mouches, épargnées par l'hiver, volaient lentement. Il n'y avait aucun autre bruit que le frémissement de leurs ailes. C'était une tiédeur dormante, éclose, comme un coin de printemps conservé dans la vieille maison. Ce fut là qu'un matin, Pascal entendit, à son tour, la fin d'une conversation qui aggrava sa souffrance. Il ne sortait plus guère de sa chambre avant le déjeuner. Et Clotilde venait de recevoir le docteur Ramon dans la salle, où ils s'étaient mis à causer doucement, l'un près de l'autre, au milieu du clair soleil. Pour la troisième fois, Ramon se présentait depuis 8 jours. Des circonstances personnelles, la nécessité surtout d'asseoir définitivement sa situation de médecin à Plassans, l'obligeaient à ne pas différer plus longtemps son mariage. Et il voulait obtenir de Clotilde une réponse décisive. 2 fois déjà, des tiers s'étant trouvés là, l'avaient empêché de parler. Comme il désirait ne la tenir que d'elle-même, il avait résolu de s'en expliquer directement, dans une conversation de franchise. Leur camaraderie, leurs têtes raisonnables et droites à tous deux, l'autorisaient à cette démarche. Et il termina, souriant, les yeux dans les siens. « Je vous assure, Clotilde, que c'est le dénouement le plus sage. Vous le savez, voici longtemps que je vous aime. J'ai pour vous une tendresse et une estime profonde. Mais cela ne suffirait peut-être pas. Il y a encore que nous nous entendrons parfaitement et que nous serons très heureux ensemble. J'en suis certain. » Elle n'avait pas baissé les regards. Elle le regardait franchement, elle aussi, avec un amical sourire. Il était vraiment très beau, dans toute la force de la jeunesse. « Pourquoi, demanda-t-elle, n'épousez-vous pas Mademoiselle l'évêque, la fille de l'avoué? Elle est plus jolie, plus riche que moi, et je sais qu'elle serait si heureuse. Mon bon ami, j'ai peur que vous ne fassiez une sottise en me choisissant. » Il ne s'impatienta pas, l'air toujours convaincu de la sagesse de sa détermination. « Mais je n'aime pas Mademoiselle l'évêque, et je vous aime. D'ailleurs, j'ai réfléchi à tout. Je vous répète que je sais très bien ce que je fais. Dites oui. Vous n'avez vous-même pas de meilleur parti à prendre ?» Alors, elle devint grave, et une ombre passa sur son visage, l'ombre de ses réflexions, de ses luttes intérieures, presque inconsciente, qui la tenait muette depuis de longs jours. « Eh bien, mon ami, puisque c'est tout à fait sérieux, permettez-moi de ne pas vous répondre aujourd'hui. Accordez-moi quelques semaines encore. Maître est vraiment très malade. Je suis moi-même troublée et vous ne voudriez pas me devoir à un coup de tête. Je vous assure à mon tour que j'ai pour vous beaucoup d'affection. » Mais ce serait mal de se décider en ce moment. La maison est trop malheureuse. C'est entendu, n'est-ce pas? Je ne vous ferai pas attendre longtemps.